chinoise, de centrer finalement cette carte sur l'Asie et au cœur de l'Asie, la Chine. Et si on dézoome, si on change la focale, on change d'échelle, finalement, ce serait la Chine qui serait au centre du monde et qui serait entourée d'un système politique et de société qui serait redevable, en tout cas dans l'environnement immédiat de la Chine, dans une logique post-impériale de vassaux, de centre-périphérie, où le centre serait chinois, un monde civilisé autour duquel seraient organisés des États, des sociétés proches ou en tout cas redevables, ou dans une logique vassalisée à la Chine.
Oui, pour de dire qu'il fallait avancer, disons, relativement masqué, mais prendre de la puissance, ça a été d'autant plus facile que les Américains se sont enlisés au Moyen-Orient dans les années 2000, d'où d'ailleurs un peu la surprise de commencer de nouveau une guerre au Moyen-Orient, ce qui risque encore une fois de profiter à la Chine. On a eu un peu, à la fin des années 2010, les Chinois qui ont une diplomatie un peu plus agressive, avec d'ailleurs un certain nombre d'opposants, de gens qui ont dit en Chine qu'il fallait faire attention de ne pas se montrer trop tôt. Et puis, finalement, ça a provoqué quand même des tensions à travers le monde, une opinion qui s'est dégradée à l'égard de la Chine. Les Américains qui ont pu en profiter finalement pour non pas embrigader les Européens et un certain nombre de pays asiatiques ou l'Inde, mais en tout cas l'impression que pouvait se créer une grande coalition face à cette montée d'une Chine plus agressive. Et là, le contexte a complètement changé. C'est-à-dire que, au contraire, les États-Unis ne s'appuient plus sur leurs alliés. Au contraire, ils ont plutôt tendance à les faire fuir ou à essayer de les exploiter. Donc, évidemment, pour la Chine, c'est une situation qui est bien meilleure, avec un discours plutôt rassurant, en disant, voilà, celui qui met le désordre, c'est Trump. Venez à moi, je vais mettre un peu d'ordre, tout en étant quand même toujours très, très, très ferme sur les questions commerciales.
Prendre en compte pour nous, mais pour le reste du monde, dans un monde qui est maintenant multipolaire. Les États-Unis eux-mêmes l'ont dit au début du mandat de Trump, le moment unipolaire est une anomalie. On entre dans une nouvelle ère qui sera plus multipolaire et parmi les plus grands pôles, il y a donc la Chine. Moi, je pense que ce qui est très intéressant dans cette carte, c'est qu'elle nous montre, donc évidemment, chaque grande puissance a envie de se montrer au centre d'une carte. Ce qu'elle nous montre, c'est déjà une vision qui prend en compte les deux pôles, qui montre une Chine qui est en fait face à 14 pays frontaliers, donc ça n'a rien à voir par exemple avec la situation des États-Unis. C'est une Chine qui est quand même, dont les accès à la mer sont assez bloqués. On voit par la partie un peu blanche que son accès au Pacifique est difficile parce que les eaux sont moins profondes. Et donc il y a cette première chaîne d'îles, ces pays qui sont les alliés des États-Unis, qui enserrent la Chine sur son flanc est. Le flanc ouest, il y a donc la Russie, l'Asie centrale, l'Inde qui est un compétiteur de la Chine, au sud, l'Asie du Sud, mais aussi cette mer de Chine qui est elle-même assez difficile d'accès et à laquelle elle a envie d'étendre sa domination complète. Donc voilà, je pense que ça nous apprend surtout quelles sont les difficultés, les dilemmes et d'où elle vient.
Les États-Unis, ce que révèlent plusieurs sondages du mois dernier, d'abord celui de l'Institut américain Gallup, qui évalue depuis plusieurs années dans 130 pays du monde la popularité des dirigeants de la Chine, des États-Unis, de la Russie et de l'Allemagne. Et la conclusion de l'année 2025, c'est que la gouvernance chinoise atteint désormais 36% d'opinion favorable contre 31% pour celle des États-Unis. En 20 ans, c'est la troisième fois que Pékin dépasse Washington. La première, c'était en 2008 sous le mandat de George W. Bush. Et la deuxième en 2017 lors du premier mandat de Donald Trump. Cette fois, en 2026, Xi Jinping semble bénéficier des effets de la politique pas toujours très lisible de son homologue américain. Des va-et-vient récurrents sur les droits de douane, la volonté par exemple d'annexion du Groenland ou encore le retrait d'organisations internationales, etc., etc. Ce qui a mécaniquement entraîné un regain de popularité pour la Chine dans des pays comme le Mexique, l'Espagne, le Royaume-Uni ou encore l'Amérique latine au sens large. Et en France, pas de préférence, mais plutôt une méfiance similaire envers les deux puissances, si l'on en croit une étude du Pew Research Center de l'année dernière. Et puis, dernier sondage, mené cette fois dans les pays d'Asie du Sud-Est, auprès d'entreprises privées et d'administrations publiques, à la question « si vous deviez choisir un camp entre les États-Unis et la Chine, quel serait-il ? » Plus de la moitié des interrogés a répondu Pékin, c'est 4 points de plus que par rapport à l'année dernière. Emmanuel Véron, est-ce que ce regain de popularité de la Chine à l'échelle mondiale, c'est à cause ou grâce à Donald Trump ?
Sûrement en partie, oui. Sûrement en partie. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une forme de brutalité, de ton et de figure politique de Trump et de son administration. Mais il y a aussi un autre sujet qui est beaucoup plus, lui, dissimulé. qui est l'action du Parti communiste lui-même, la République populaire de Chine elle-même, qui en interne réfléchit depuis le Covid et l'après-Covid à redorer, améliorer l'image chinoise, quitte à le faire au forceps et au chausse-pied, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup travaillé l'environnement cognitif, la perception, à l'extérieur de la Chine, auprès des opinions, notamment dans ce qu'on qualifie aujourd'hui de Sud global, avec des guillemets, sur le continent africain, sur la totalité du continent africain, mais aussi au Moyen-Orient, en Asie dans sa globalité, en Amérique latine, mais aussi en Europe. Et ce sujet-là de travail d'influence pour redorer l'image de la Chine, pour la bonifier, se passe au niveau des jeunes générations, à travers l'apprentissage, à travers les réseaux sociaux, et je passe sur les différentes plateformes chinoises sur lesquelles nos enfants sont tous les jours, etc. C'est un des sujets, c'est un des leviers, mais également dans la tête des dirigeants. Si, brièvement, je m'arrêterai là, si on regarde l'itinéraire des agendas politiques d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement européens ces quelques dernières semaines, quelques derniers mois, ils reviennent de Pékin avec le sourire. Je pense aux Espagnols, je pense à Keir Starmer pour le Royaume-Uni, etc., etc. Donc il y a un travail qui est effectif.
Mais Léonie, alors justement sur ce balai diplomatique, tous ces...
Le fait d'avoir eu Vladimir Poutine après Donald Trump, c'est un symbole très fort que la Chine essaye d'exploiter. Hein, quand on regarde certains médias d'État aujourd'hui, ils montrent que la Chine est un point focal maintenant de la diplomatie mondiale. Évidemment, il faut faire la différence entre le narratif, ce que la Chine veut raconter, comment elle veut se présenter, et encore une fois, elle dit point focal, pas forcément la nouvelle puissance mondiale, et ensuite ce qu'elle fait réellement, les initiatives qu'elle a lancées, et le fait qu'en fait, in fine, quand on regarde son attitude en Iran, quand on regarde son attitude dans différentes crises, elle cherche plutôt une forme d'immunité stratégique, c'est-à-dire comment être partie quand même de la gouvernance mondiale, mais sans être prise par les responsabilités que cela peut encourir.
De savoir ce qui se passe dans la tête. Et justement, on a un gros problème aujourd'hui de connaissance de la Chine, de l'entourage.
C'est opaque.
C'est opaque, effectivement.
Mais la relation avec la Russie a plus besoin de la Chine que la Chine n'a besoin de la Russie.
Oui, tout à fait. Mais je crois que ce qui est vraiment très intéressant, c'est que la référence, d'ailleurs, qui a été citée à plusieurs reprises lors du voyage de Trump, c'était 1972, le voyage de Nixon. Or, à ce moment-là, celui qui était à la tête, finalement, de cette relation triangulaire qui pouvait jouer à la fois sur les Chinois et sur les Soviétiques, c'était les États-Unis, c'était Nixon. Or là, les deux voyages qui se...
Il avait rencontré Mao en 72.
Voilà, il avait rencontré Mao, il était allé à Mao, et puis il a rencontré Brejnev, donc c'était vraiment l'impression que c'était les Américains et Kissinger, pour aller vite, qui menaient le jeu. Et là, on a l'impression inverse, c'est que c'est maintenant, j'allais dire, la Chine qui est en haut du triangle, et qui peut jouer sur les deux, et d'ailleurs, c'est même un peu plus compliqué si Xi se rend à Pyongyang, comme on l'a entendu aujourd'hui. Ce qui est intéressant quand on fait le compte des voyages, c'est que Xi voyage beaucoup moins qu'il ne voyageait auparavant, et notamment il voyage pratiquement plus en Europe, en Amérique latine, etc. En revanche, on se rend.
On se rend vers lui.
Ce qui est évidemment symboliquement relativement important, et je crois que ce qu'il faut regarder aussi, ce sont tous les sommets, j'allais dire un peu multilatéraux, avec les BRICS, où là finalement c'était normalement les Indiens donc qui présidaient les BRICS, et là ça leur posait des problèmes. Donc même ces forums traditionnels, je pense que pour lui c'est moins intéressant que d'être au centre à Pékin.
Et côté chinois maintenant, qui est d'assumer le face-à-face beaucoup plus, de manière beaucoup plus agressive, de manière beaucoup plus exacerbée que par le passé. Quand je dis le passé récent, pendant le Covid, voire avant le Covid, ça nous ramène 5, 6, 7 ans en arrière, d'assumer le rapport de force, d'assumer le face-à-face, et de montrer à la face du monde, d'abord aux Chinois, à la population chinoise, aux milliards et quelques de Chinois, et à la face du monde, qu'ils sont capables, malgré les grandes divergences qu'il y a entre ces logiques de deux blocs, de deux pôles, qu'on est capable d'avoir un protocole diplomatique pour recevoir son ennemi, puisque ce sont les termes qui qualifient les États-Unis aujourd'hui côté Pékin.
Ennemi.
Et d'assumer ce rapport de force à peu près à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur quand les États-Unis vont sanctionner des sociétés chinoises dans le pétrole et dans le raffinage et dans la production diesel. On n'a pas peur des États-Unis quand ils vont sanctionner des sociétés commerciales d'imagerie satellite qui sont duales, civilo-militaires, dans les efforts de guerre en Iran, etc.
On assume est loin, un rôle décrit par Trump quand même dans ce que vous nous dites là. Hein, tout de même.
On est sur un paravent diplomatique en coulisses. C'est extrêmement tendu et la compétition est féroce.
Vous parlez
communication officielle de la Maison-Blanche est quand même de rassurer sur le fait qu'il n'y a pas de changement de politique vis-à-vis de Taïwan, que les paquets de ventes d'armes qui ont été promis, dont certains ont été acceptés en décembre, vont probablement être également accepté. Ce qui est certain, c'est que ce que la Chine cherche, c'est des évolutions sémantiques du côté de Washington, que Washington pourrait... Enfin, pour l'instant, ils sont restés plutôt cohérents. Et donc, ce qu'on peut tirer, en fait, de ce sommet où on a beaucoup attendu qu'il y ait un deal autour de Taïwan, etc., finalement, ma conclusion, c'est plutôt... pas d'escalade, pas de concession. C'est-à-dire vraiment essayer de montrer qu'on est dans une nouvelle stabilité stratégique. C'est la seule chose, d'ailleurs, en commun qu'ont les deux communiqués.
Ah oui.
C'est assez intéressant de comparer. C'est un travail que font tous les diplomates, ou les observateurs, en tout cas, de la compétition sino-américaine. Quand ils se sont vus, qu'est-ce qu'ils en ont chacun conclu? Et la chose sur laquelle ils se sont mis d'accord, c'est la stabilité stratégique. Maintenant, ce qu'ils entendent par ça, est-ce que ça veut plutôt dire gagner du temps, développer des nouveaux outils de compétition pour potentiellement une prochaine escalade des tensions ou non? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même sur un sommet, dont sur Taïwan, où il n'y a eu ni escalade ni concession.
Oui,
aux États-Unis, vous avez à peu près toutes les opinions. Donc ceux qui disent que la guerre va arriver, d'autres qui disent qu'il n'y aura pas la guerre et que ça va être absorbé, j'allais dire, relativement pacifiquement. Vous avez des débats aussi pour dire est-ce que finalement Taïwan est si important stratégiquement. Certains qui demandent même un deal en disant, ben voilà, en gros, on laisse les mains libres aux Chinois à Taïwan et on essaye d'obtenir quelque chose en échange.
Qu'est-ce que Xi Jinping envisage et entend quand il évoque un piège, le piège de Thucydide?
Oula, alors c'est
vous n'avez pas 4 heures.
Comment?
Vous n'avez pas 4 heures pour expliquer.
Non, c'est l'idée qui est, en fait, qui a été développée au départ plutôt aux États-Unis, qu'il risque d'y avoir une guerre entre une puissance en déclin et une puissance montante. Mmh. Voilà. Et c'est un débat qui existe aussi en Chine en disant qu'on peut éviter tout à fait ce piège de Thucydide. Et un des exemples qui est donné, c'est qu'on est passé d'une certaine façon de l'hégémonie britannique à l'hégémonie américaine sans guerre entre les Britanniques et les Américains. Alors, il y a eu plein de guerres, mais pas entre les Britanniques et les Américains. Mais en même temps, traditionnellement, les Chinois ne sont pas très favorables à cette expression parce qu'ils disent « nous, on ne veut pas être la puissance hégémonique ». Nous, ce qu'on veut, c'est un monde multipolaire, chacun sa civilisation, dans un monde polycentrique, etc. Donc je pense que c'est plus, une certaine forme de cadeau pour rassurer un peu les Américains et l'opinion américaine que vraiment une pensée très profonde et une réflexion sur le piège de Thucydide. Tout ça, il faut bien, en tant qu'historien, je me permets de le dire, que tout ça est extrêmement discutable comme réflexion, parce que, par exemple, d'expliquer qu'il y a eu la Première Guerre mondiale parce que c'était les Britanniques qui déclinaient et les Allemands qui montaient, c'est faux.
Alors, l'Asie notamment, les autres pays asiatiques autour.
Vis-à-vis du monde.
Du monde.
Vis-à-vis de ce qu'on évoquait avec la projection de la carte au début de l'émission, la Chine est au centre du jeu et il y a un ordre hiérarchique au sein duquel la Chine est le centre, quelque part le donneuse d'ordre, hiérarchisant ses périphéries, le monde multipolaire. Donc oui, l'intention qui fut par le passé Deng Xiaoping, des intentions cachées, sont aujourd'hui des intentions de moins en moins cachées, de plus en plus affichées et assumées.
Et en même temps, il y a beaucoup de faiblesses.
Attention des faiblesses et des fragilités et des grandes problématiques internes à la société, à l'économie et à la finance chinoise, que de dire, regardez comme nous sommes le pôle de stabilité face à une Amérique turbulente et belliciste.
Une vision révisionniste de la part de la Chine dans les frontières qu'elle essaye d'agrandir, notamment on parlait de la mer de Chine du Sud, de son emprise sur l'Asie. Mais ce qu'on voit avant tout, enfin pour moi, la personnification du Parti communiste autour de Xi Jinping, qui est maintenant un autocrate, plus uniquement le leader d'un parti, d'un État autoritaire, c'est quelque chose qu'il faut absolument étudier. On en parlait, vous en parliez avant, il faudrait avoir plus d'experts sur la Chine, plus d'expertise, plus de capacité à comprendre, même si elle est difficile à comprendre. C'est un pays, je pense, qui mérite beaucoup, beaucoup notre attention et la compétition sino-américaine va être centrale.
Une gamme technologique qu'on n'avait sans doute pas tout à fait prévue. Vous avez quand même une part dans les exports. Vraiment. Des chiffres d'exportation et de bénéfices liés aux exportations tout à fait considérables qui font qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement des produits de base qui sont concurrencés, mais demain, ça va être sans doute l'aéronautique. On sait que du côté du luxe aussi, il va y avoir de la concurrence et que le luxe français commence à tenter un tout petit peu moins les élites. Voilà, ça, les problèmes économiques sont pas spécialement là. Mais je voulais juste dire un mot sur aussi les aspects de faiblesse internationale. Mm-hmm. C'est quand même un pays qui n'a pas d'alliés, de vrais alliés, qui ne protège personne. Alors, peut-être que c'est une force, hein, mais en tout cas, il n'y a pas de responsabilité. Et puis, qui a un modèle qui n'est pas vraiment exportable. Donc, on peut être fasciné par la Chine, mais ce n'est pas un modèle qui est exportable.